La science, CQFD, Natacha Triou.
Le 15 novembre prochain, nous allons franchir la barre symbolique des 8 milliards de terriens. Mais d'ailleurs, quel genre de science est la démographie ? En 1820, le monde comptait 1 milliard de terriens. L'après 1945 est marqué par une augmentation à peine imaginable du nombre d'êtres humains. Entre 1960 et aujourd'hui, on est passé de 4, 5, 6 aux 7,95 milliards d'habitants. En seulement deux siècles, la population mondiale a été multipliée par 8. Mais est-ce possible de savoir combien nous serons en 2100 au 22e siècle ? Démographie, l'homme qui valait 8 milliards. Jacques Véron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, et l'auteur de « Faut-il avoir peur de la population mondiale ?» paru aux éditions du Seuil. Hervé Lebras, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, le HESS, et directeur de recherche émérite à l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED. Et bonjour Cécile Lestienne.
Bonjour Natacha.
Vous êtes directrice de la rédaction de Pour la Science, qui publie pour ce mois de novembre un dossier sur les prévisions démographiques. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. Vous pouvez également suivre cette émission sur Twitter, sur notre fil @sciencecqfd. Jusqu'à 17h, nous parlerons des concepts clés de cette discipline, comment les démographes construisent leurs modèles et comment les modèles mathématiques des évolutions démographiques d'une population ont-ils évolué. Écoutons comment nous parlions de la population mondiale en 1951. C'est notre archive du jour avec un charmant accent.
Si l'on considère les statistiques, le monde est aujourd'hui divisé en deux groupes dont les caractères s'opposent nettement. D'une part, les nations où le taux de natalité et de mortalité est bas, et de l'autre, celles où il est élevé. Le premier groupe comprend les pays de l'Europe occidentale, les États-Unis et les populations blanches des dominions britanniques. Le second groupe comprend l'URSS, l'Afrique et l'Asie, sauf les Blancs, l'Amérique du centre et du sud. Il y a là un phénomène nouveau. Un taux élevé de natalité et de mortalité était autrefois la règle dans la plupart des parties du monde. Il y avait des exceptions, telles les indigènes d'Australie, mais elles n'étaient pas importantes du point de vue numérique. En général, la règle était d'avoir beaucoup d'enfants et que la plupart d'entre eux meurent. Ainsi, jusqu'au XIXe siècle, le taux de la natalité et celui de la mortalité étaient à peu près équivalents, de sorte que l'accroissement de la population était lent. Mais au XIXe siècle, grâce surtout au progrès de la médecine, le taux de la mortalité tombe brusquement, tandis que, sauf en France, le taux de la natalité restait élevé pendant les trois premiers quarts du siècle. L'excédent de population fut absorbé par l'Amérique et les dominions. Il en résulta un énorme accroissement du nombre des Blancs dans le monde.
La voix du mathématicien et philosophe Bertrand Russell. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Cécile Lestienne ?
À part que l'accent est formidable. mais c'est peut-être une bonne introduction pour parler de la transition démographique, pour expliquer ce qu'est la transition démographique et effectivement pourquoi la population, l'accroissement de la population qui était très lent pendant des siècles et des siècles et des siècles est devenu tout d'un coup beaucoup, beaucoup plus fort. Enfin, pas tout d'un coup, assez lentement. Quand même, voilà, notamment parce qu'effectivement, la natalité est devenue beaucoup plus forte que la. Enfin, c'est plutôt la mortalité qui a beaucoup baissé, pas tellement la natalité qui a augmenté. Et du coup, ça a fait créer ce déséquilibre qui, à certains moments, a changé aussi parce que les gens font aussi aujourd'hui beaucoup, beaucoup moins d'enfants que qu'auparavant, partout dans le monde, j'oserais dire quand même, mais. Je pense que Hervé Lebras, on le dira mieux que moi, mais aujourd'hui, dans le monde, le taux de fécondité, c'est 2,3 enfants par femme, si je ne me trompe pas. Dans les années 50, c'était encore 5 enfants par femme. Et deux tiers de l'humanité vit aujourd'hui dans un pays où on est en dessous du seuil de 2,1 enfants par femme, qui, je crois, vous le savez, est le seuil de remplacement. C'est le nombre d'enfants qu'il faut en théorie pour remplacer une génération par une autre.
Jacques Véron, pour réagir à cette archive, et puis aussi parce que ce mot-clé a été lâché, le mot transition démographique.
Oui, auparavant, j'aimerais remonter encore un petit peu le temps, puisque quand même, dans ces domaines, on fait référence fréquemment à Malthus. Malthus a écrit donc en 1798 son fameux essai sur le principe de population. Et à ce moment-là, il y avait 1 milliard d'habitants sur Terre. Et donc, il s'inquiétait du pouvoir multiplicateur de la population. Et donc, ça met un peu les choses en perspective. Sur le modèle de la transition démographique, c'est l'idée que des populations, alors c'est un modèle très schématique, inspiré de l'expérience des pays européens, mais l'idée que la natalité et la mortalité sont très proches dans un système initial, à l'état initial, et puis la mortalité baisse assez rapidement sans que la natalité change. Et puis au bout d'un certain temps, il y a une réaction de la natalité à la baisse de la mortalité et on revient vers un quasi-équilibre avec des niveaux bas. Ça, c'est le modèle, le schéma, mais qui a été beaucoup critiqué derrière. Pourquoi est-ce que ça, il y aurait des réactions? Est-ce que le développement est en cause ou pas? L'urbanisation, l'éducation, etc. Mais c'est, disons, l'idée de base.
Hervé Le Bras, pour compléter.
Pour revenir à Bertrand Russell, c'est quand même curieux qu'il n'ait pas parlé de ce qui, au fond, la surprise qui venait d'arriver par rapport à la transition démographique. C'était ce qui s'appelle le baby-boom, puisque exactement au moment où il parlait, au lieu que la fécondité continue de baisser comme on le prévoyait, et comme toutes les prévisions le disaient, avec même des arguments de type idéologique, eh bien, c'est l'inverse qui s'est produit. La fécondité a rebondi, non seulement en France, mais dans la plupart des pays, et plus encore dans les dominions qu'il cite. Donc, pour moi, s'il fallait parler de population, c'était plutôt dans cette actualité. Sinon, comme souvent pour les personnes qui ne sont pas très spécialisées dans un domaine, il datait un peu, si vous voulez. Il parlait de la situation des années 30. Peut-être un autre mot sur... on y reviendra, sur cette population mondiale dont vous avez parlé. Il faut rappeler que même si, en moyenne, pour toute la Terre, c'est 2,3 enfants par femme, les différences sont énormes. Ça va de... actuellement 0,91 enfants par femme en Corée du Sud, à presque 7 enfants par femme au Niger. Vous voyez l'étendue des différences de fécondité.
Mais les grandes différences entre le global et le local, on verra...
Plus que du local.
à terme, voilà, de pays. Je voudrais vous faire réagir sur une publication peu consciencieuse qui a fait les gros titres. C'est l'étude, on va mettre de grosses guillemets sur le mot étude. Tu te parus le 22 août dernier, celle de la HSBC. D'ici 2100, nous ne serions que 4 milliards, contrairement aux 10 annoncés par l'ONU. Alors comment James Pomeroy, l'économiste de la HSBC, est-il arrivé à ce résultat, Jacques Véron?
Mais en fait, son analyse est beaucoup de l'expérience des pays développés, où effectivement la baisse de la fécondité a été rapide et parfois plus rapide que prévu. Mais moi, je suis très sceptique sur la généralisation à l'ensemble de la planète. Quand on voit ce qui se passe dans des pays comme le Nigeria, avec des taux de croissance supérieurs à 3% par an, on ne voit pas comment, du jour au lendemain, on va passer à une fécondité comparable à celle de l'Italie et de l'Espagne. Donc, il y a un peu l'idée derrière qu'il y a ou des scénarios catastrophes, c'est-à-dire qu'en fait, on extrapole sur des épidémies, etc., ou alors un scénario développement qui fait que le développement accélère tout. Mais à ce moment-là, ça renvoie à la question du développement. Qu'est-ce que c'est le développement? Est-ce que c'est de la consommation ou est-ce que c'est autre chose? Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose.
Hervé Le Bras, pourquoi l'hypothèse de 4 milliards d'êtres humains d'ici la fin du siècle, c'est peu crédible?
Si vous voulez, j'étais plutôt étonné qu'on s'y intéresse parce que il y a des gens sérieux qui travaillent sur ces questions. Ils sont pas toujours d'accord. On en reparlera. Mais les prévisions de population qui sont les plus utilisées, c'est celles des Nations Unies. C'est 50 chercheurs de haut niveau en statistique et en démographie. Il y a aussi l'Institut LIASA de Vienne qui a un excellent centre avec le centre Wittgenstein. Et puis c'est du boulot, c'est-à-dire il faut faire pays par pays et puis ensuite on additionne et ça donne la population mondiale. Alors je ne sais pas comment ce monsieur Pomeroy, qui est tout à fait inconnu des milieux démographiques, a fait, mais je trouve ça assez déplaisant d'une certaine manière que nous sommes dans une science sérieuse et au fond c'est une personne qui n'a pas fait un travail aussi sérieux que les deux institutions que je viens de citer, qui fait la une de l'actualité uniquement parce que au fond, parce que c'est aberrant, ce que, son résultat. Bon, en même temps, grâce à lui, nous sommes ici, donc...
Pour parler des méthodes sérieuses, justement. Cécile Lestienne, vous vouliez réagir.
Oui, oui, non, je voulais juste renvoyer les auditeurs, s'ils veulent, ils tapent sur leur moteur de recherche préféré, INED, je ne sais plus quel est le simulateur de population, pardon, donc voilà, et ils vont tomber sur un petit graphique animé, voilà, et on peut jouer avec, pays par pays, ou sur la population mondiale, et vous voyez la population augmentaire, et vous jouez sur les hypothèses, justement. Combien il y a d'enfants, quel est le taux de fécondité, quelle est l'espérance de vie, et vous voyez, alors, pour arriver à 4 milliards en 2100, il faudrait passer du jour au lendemain, je crois, 1,3 enfants par femme sur toute la planète, si on veut garder la même espérance de vie. Alors après, évidemment, si on pense que l'espérance de vie peut tomber à 50 ans ou 40 ans, ça va être plus rapide.
En tout cas, ce que montre cet article, en effet, un peu sérieux, c'est que la démographie est souvent au cœur des fantasmes.
Au cœur des fantasmes. En tout cas, c'est une question qui interpelle, je pense, mais aussi parce que effectivement, on est passé en très très peu de temps. Les 2 milliards, comme vous le rappeliez, c'était en 1927. Voilà, aujourd'hui, on passe les 8 milliards 11 ans après avoir passé les 7 milliards. Donc forcément, c'est une question qui nous interpelle. Nous, ce qui nous a intéressé, pourquoi on a voulu faire ce dossier avec Gilles Pison, confrère de l'INED, de vos invités, ce mois-ci, c'était plutôt justement pour ce chiffre symbolique des 8 milliards annoncé pour le 15 novembre, bon, même si c'est symbolique, et c'est peut-être pas le 15 novembre exactement, mais vu qu'il y a, je crois, 4 enfants qui naissent par seconde, si je ne me trompe pas. L'idée, c'était justement de voir voilà, qu'est-ce qu'il y avait derrière, comment étaient fabriquées ces projections, qu'est-ce qu'on pouvait en dire et ne pas en dire, voilà. Et est-ce que c'était le chiffre global qui était important ou si justement c'était les chiffres plus locaux qui pouvaient dire des choses et aussi des choses sur la pyramide des âges, par exemple, parce que on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais dans ces projections, on voit notamment l'accroissement très net de la population plus âgée. Je ne dis pas ça pour le regretter ni pour le saluer, mais il faudra en tenir compte dans les projections futures, dans nos politiques futures.
Jacques Véron.
Oui. Non, mais j'interviendrai un peu plus tard là, sur ce point, ce point du fantasme, parce que la bombe population, puisque c'était célèbre dans les années 60, mais en fait le premier texte qui s'appelle bombe population, il date de 1954, et c'est un groupe d'industriels américains qui se sont inquiétés, parce que pour eux, ça signifiait l'extension du communisme. Donc le rapport entre démographie et politique, en fait, a été très très présent dès le départ dans cette inquiétude, et évidemment, après l'accélération de la croissance, a amplifié cet effet et cette inquiétude.
Et vous d'ailleurs, hein, Hervé Lebras, vous dites dans un article, la démographie, je vous cite, la démographie est un miroir de nos espoirs et de nos angoisses.
Oui, tout à fait, depuis longtemps. On a cité Malthus, mais avant Malthus, il faut rappeler qu'une querelle très célèbre qui étudie les lycéens en littérature, qui est la querelle des anciens et des modernes, est lancée par une question démographique. Montesquieu estime, dans l'esprit des lois, que la population a considérablement diminué depuis l'Antiquité. Et donc, il va être repris par David Hume, le grand philosophe anglais, qui, à cette occasion, pour la première fois, utilisera le mot population. C'est intéressant de voir qu'au fond, le mot lui-même sort d'un certain nombre de fantasmes. Ensuite, on a cité Malthus et ça va continuer parce que il y a aussi une raison à ce fantasme dont on reparlera sans doute, c'est quelque part, la population mondiale ne signifie rien d'une certaine manière. C'est-à-dire que, un, personne ne peut la voir ni l'appréhender concrètement, mais surtout, personne n'a d'action sur elle. Une population nationale, il y a un minimum d'action. Il y a des politiques sociales, il y a des politiques démographiques, donc c'est pas qu'elles soient très efficaces. Mais il y a une prise, et quelquefois, il y a une prise, mettons la politique de l'enfant unique, qui est une prise violente sur la population. Mais mondiale, non, il faudrait qu'il y ait un gouvernement mondial. Donc c'est déjà le fait même de parler de population mondiale, ça nourrit nécessairement le fantasme.
On parle de fantasmes, passons aux choses sérieuses. Hein. Tous les deux ou trois ans, hein, les Nations Unies publient leurs estimations et leurs projections de la population mondiale. Selon le World Prospect 2022 des Nations Unies, la 27e édition de leur estimation, ça prévoit un différent scénario démographique pour le siècle à venir avec une probabilité de 95%, et cela prévoit entre 8,9 et 12,4 milliards de terriens en 2100. Jacques Véron, la croissance démographique est une inéluctable.
Oui, avant de revenir là sur la question de ce que disait Hervé Le Bras sur l'évolution de la population mondiale, ce qui était intéressant, c'est il y a une vingtaine d'années, les Nations Unies ont revu leurs estimations du fait de ce qui se passait en Chine. Donc on voyait bien que le poids de deux pays, la Chine et l'Inde, est déterminant dans l'évolution de la population mondiale. Sur la question de l'évolution à terme et de ce qui est inscrit, disons que d'abord, les 6 milliards qu'on a eus, ils avaient été annoncés quand même une quarantaine d'années auparavant. Donc, on ne part pas sur n'importe quoi. Et c'est vraiment le jeu des inerties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si du jour au lendemain, la fécondité se mettait simplement au niveau du remplacement des générations, on ajouterait quand même 1 milliard d'habitants à la population mondiale. Donc, c'est pour ça que les scénarios où on dit tout peut baisser très rapidement ne tiennent pas compte. Et d'ailleurs, dans l'étude qui a été citée de HSBC, il parle du vieillissement comme un facteur de dénatalité. Or, c'est le vieillissement, enfin, l'évolution de la structure par âge au fil du temps, elle est prise en compte parfaitement dans l'élaboration des perspectives de population. Donc, ce n'est pas un effet de surprise, si vous voulez.
Hervé Le Bras.
Le fait important, c'est que les Nations... Ce qui est vraiment, je dirais, nouveau, c'est que les Nations Unies prévoient qu'on passera par un maximum. Alors, le chiffre exact qu'ils donnent dans la prévision moyenne, c'est 2086. Mais surtout,
on atteindrait un palier en 2086.
Voilà, un palier, et on commencerait à baisser assez lentement. Mais ce qui est intéressant, et qu'il y a une très bonne projection qui est alternative, qui est faite par l'IASA de Vienne, qui a d'ailleurs une longue pratique aussi, et qui donne plutôt ce maximum vers, disons, dans la décennie 2060. Donc on n'est pas si loin d'une stabilisation et d'une décroissance. Ça ne changera pas énormément sur le nombre final, puisque avec la décroissance et les chiffres que vous avez cités, on arrivera, entre selon les deux estimations, entre 9 milliards et puis 10 milliards. Mais ça veut dire que par la suite, la décroissance risque d'être rapide.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
16h17 sur France Culture, nous parlons de démographie avec Jacques Véron, Hervé Le Bras et Cécile Lestienne. Alors, nous venons d'évoquer les calculs des projections des Nations Unies. Pour comprendre comment se font ces calculs et cette méthodologie, remontons un peu en arrière. Hervé Le Bras, la toute première prévision mondiale, c'était quand ?
Vous savez, la première prévision mondiale, mais elle est très grossière, c'est un très grand économiste. Marx disait que c'était le père de l'économie politique. C'est William Petty qui était un fondateur de l'arithmétique politique. L'arithmétique politique est d'une certaine manière à l'origine des sciences de la population et de la statistique. Et il avait simplement procédé par multiplication par deux parce qu'il voulait savoir... C'était en 1681, quand est-ce que la Terre serait entièrement remplie, parce que c'est à ce moment-là, selon les Écritures, que le jugement dernier se produirait. Alors je vous rassure, dans son calcul, ça arrivait dans 2400 ans, donc on avait le temps de voir venir. Mais c'est au fond le premier effort de conceptualiser cette idée de croissance démographique de la population mondiale. Et après, il y a eu énormément de travaux, à part le Von Hoek, déjà peu de temps après Petit, puis à partir du XVIIIe siècle, beaucoup d'auteurs se sont lancés dans des estimations. Mais les vraies prévisions sérieuses, si on peut dire, c'est-à-dire avec un ensemble de méthodes, c'est disons dans les années 20, et particulièrement en France, c'est la prévision d'Alfred Sauvy en 1931 qui est la première à faire ce qu'on appelle une prévision par composante, qui est encore la manière selon laquelle travaillent les Nations Unies ou travaille l'Institut Wittgenstein de Vienne.
Alors déjà, j'imagine que pour pouvoir anticiper, il faut pouvoir recenser au jour d'aujourd'hui combien de personnes maintenant, Jacques Véron, c'est le fait que nous sommes 7,95 milliards, le plus étonnant, c'est pas le chiffre lui-même, mais c'est le fait qu'on le sache.
Oui, alors on ne le sait pas forcément avec une précision absolue, mais enfin, il y a quand même des pays, l'Inde par exemple, a fait un recensement très complet et de qualité. Donc les pays ont des recensements, et puis par ailleurs, il y a des tests de cohérence des évolutions en fonction de la structure par âge et des évolutions de la natalité et de la mortalité. On peut voir s'il y a un problème et éventuellement faire des corrections. Donc le chiffre, il ne faut pas chercher la précision au jour le jour, bien sûr, mais enfin les ordres de grandeur sont conséquents et stables, je dirais.
Alors pour arriver à des modèles mathématiques plus précis, c'est le chercheur Alfred Lotka, en 1911, qui a été un pionnier. Quel a été son coup de force, Jacques Véron ?
Ben, il a établi, formalisé une relation entre la natalité, la mortalité et la structure par âge d'une population. Et ça a été le début de travaux après, et justement de travaux qui ont permis, et le taux de croissance de la population, et ça, des travaux qui ont permis de faire des estimations, en particulier dans les pays où on avait très peu d'informations, en fonction de la connaissance qu'on pouvait avoir, un recensement qui donnait une structure par âge, faire des estimations des statistiques d'état civil.
Hervé Le Bras.
Oui, non, Alfred Lotka, disons, la manière dont il a débloqué, il y a eu beaucoup de travaux sur de dynamique de population, de la manière dont les populations évoluaient, mais il manquait quelque chose, et la grande force d'Alfred Lotka, c'est d'avoir utilisé ce qu'on appelle des taux de fécondité par âge, c'est-à-dire de regarder quel est âge par âge la manière dont la proportion de femmes qui ont un enfant. Et c'est seulement une fois que vous avez ces taux de fécondité par âge, vous aviez déjà les taux de mortalité par âge, c'est uniquement quand on a les deux qu'on peut faire une projection de population. Et c'est tout bête, c'est-à-dire que, et encore maintenant on fait de cette manière-là, c'est-à-dire que on fait année par année, donc on a la population par classe d'âge, et ça Jacques Véron a dit, on la connaît assez bien, et puis on note chaque année les décès en fonction des taux de mortalité par âge, et on ajoute pour la première classe d'âge les naissances calculées à partir du nombre des femmes et de leur fécondité. Et ça a débloqué la situation, mais ça a mis ensuite un peu de temps. Sauvine utilise, et cite Lotka dans son article, seulement 1931. Ça a lentement pénétré, parce que Lotka, qui est par ailleurs, c'est une petite partie de son œuvre, la démographie, c'était surtout, c'est un des précurseurs de l'écologie mathématique remarquable.
C'est-à-dire que, pour revenir sur ce que vous venez de dire sur la fécondité, il détache la fécondité du couple pour l'assigner à la femme seule, et c'est
absolument,
ça
le... Absolument, c'est ça le grand changement auquel ne parvenaient pas la plupart des auteurs précédents.
Cécile Lestienne ?
Non, juste, peut-être c'est comme ça qu'on peut expliquer à l'auditeur pourquoi on ne va pas couper à une augmentation de la population, en tout cas dans les décennies vraiment proches à venir. C'est parce que justement les femmes en âge d'avoir des enfants aujourd'hui, ou qui vont être en âge d'avoir des enfants d'ici 10 ans, 20 ans, on connaît déjà leur nombre. Et voilà, et elles sont nombreuses parce qu'elles viennent de générations qui étaient très nombreuses. Donc voilà, même si elles ont relativement peu d'enfants, la population générale va quand même augmenter, quoi qu'il arrive, oui, avant de diminuer plus ou moins lentement, je ne sais pas trop quand.
Alors Jacques Véron, on peut parler aussi de la méthode des composantes, enfin, on l'évoque là en l'instant, mais justement d'un peu plus la préciser ensemble, cette fameuse méthode des composantes d'Alfred Lotka.
La méthode des composantes, c'est pas Alfred Lotka, mais c'est la méthode qui est utilisée pour les projections démographiques, et c'est ce que vient d'expliquer Hervé Lebras, c'est-à-dire qu'on fait vieillir la population présente et on fait naître des enfants au fur et à mesure du temps. Et donc ça donne un cadrage en fonction des hypothèses. Alors évidemment, on peut considérer que la fécondité ne varie plus, et c'est une hypothèse particulière, au contraire qu'elle diminue comme elle a diminué par le passé, ou au contraire se dire qu'il peut y avoir une stabilisation pour une raison X ou Y, un seuil. Donc après, on peut multiplier les hypothèses, et c'est ce que font les Nations Unies, des hypothèses qui permettent d'encadrer la réalité, et qui sont pas des prévisions, mais qui sont des projections, c'est-à-dire si la fécondité et la mortalité évoluent de telle manière, il se passera ça.
Oui, c'est-à-dire que voilà, la méthode des composantes arrive à tenir compte des évolutions de la mortalité et de la fécondité au cours du temps. C'est l'ONU qui fait les premières estimations de population avec cette méthode.
Oui.
Hervé Le Bras, je vous vois.
Tous les démographes fin des années 20 et 30 dans les différents pays européens aux États-Unis ont fait des projections par la méthode des composantes. C'est le cas aussi bien, même en Russie d'ailleurs, c'est le cas en Angleterre.
C'était systématisé par l'ONU.
Ça a été systématisé par l'ONU au monde entier. Et encore, la première faite par la première globale par les Nations Unies n'est que de 1963. C'est quand même un tout petit peu tardif, mais c'est vrai, Jacques Vermoy a raison, qu'à ce moment-là, on met tous les pays, on le fait pays par pays, et puis on additionne tous les pays. C'est pour ça que je vous ai dit, la notion de population mondiale est quand même relativement artificielle.
Cécile Estienne.
Oui, sauf erreur de ma part, je crois que la première projection à 2100 de l'ONU date de 1981. Voilà. Et nous, ce qui nous a surpris dans l'article du démographe Jacques Pison, c'est qu'il nous expliquait que donc en 1981, les projections pour 2100, c'était 10,5 milliards d'habitants. Pour le scénario moyen, voilà. Et les projections, les dernières, là, c'est 10,4 milliards d'habitants. Donc, on peut se dire, oh, quand même, ils sont très forts, ces démographes, parce que c'est l'écart est des plus modestes, voilà. Mais en même temps, quand on regarde les courbes, justement, des différents continents, on s'aperçoit que c'est pas du tout les mêmes en 81 et en 2022. Donc, c'est un peu difficile de l'expliquer là. Et d'ailleurs, notre numéro, j'en profite pour le dire, ne va sortir que mercredi prochain en kiosque, mais l'article est déjà en ligne aujourd'hui. Donc les auditeurs peuvent aller le voir et ils verront les schémas qui montrent très bien que effectivement en 81 on voyait des courbes sur tous les continents qui étaient à peu près pareilles, qui augmentaient beaucoup puis qui arrivaient à une sorte de plateau, voilà. Et puis là on s'est aperçu qu'en fait selon les continents c'était pas exactement ça qui se passait, et que des pays que des continents entiers ou des pays comme la Chine etc ont des projections qui vont baisser beaucoup plus vite, alors que l'Afrique va beaucoup plus augmenter, parce qu'en fait les hypothèses de fécondité n'ont pas été exactement celles-là, ni de mortalité. La mortalité a baissé plus vite que prévu, malgré le sida. La fécondité a baissé plus vite que prévu, notamment en Amérique latine, en Europe. Et donc, c'est ce qui explique ces différences, même si le nombre total est à peu près le même.
Oui, tout à fait.
Mais Jacques Véron, est-ce que c'est possible de projeter la population à un horizon très lointain, 2100, parfois même 2300?
Ben ça, on peut toujours. on l'interdit. Peut. Mais après, c'est l'interprétation qui est importante. Alors, il faut quand même voir aussi que c'est ce qu'on appelle l'inertie. Il y a l'évolution ne se fait pas n'importe comment. Il y a cette force qui est prise qui est intégrée à la structure par âge. La structure par âge d'une population détermine pas mal l'avenir dans les décennies qui suivent. Donc même avec des évolutions assez contrastées de la fécondité et moins de la mortalité, on n'a pas pendant les premières décennies des différences fondamentales. Alors évidemment, plus on prolonge l'horizon. Si on prolonge l'horizon de la courbe japonaise, par exemple, il n'y aura plus personne.
Oui. Je me souviens de cette étude il y a une quinzaine d'années, je crois, qui avait fait des projections. Ils étaient 10 japonais.
Ça, c'est sûr. Mais parallèlement, juste pour revenir sur un point sur la population mondiale, il faut voir aussi que ce qui alimente la croissance démographique mondiale aujourd'hui, c'est largement quelques gros pays. Il y a 8 pays qui alimentent la moitié de l'accroissement d'ici l'horizon 2050. Donc tous les pays ne sont pas à égalité de ce point de vue-là. Et quand on prend comme exemple ce qui se passe dans des petits États, Singapour ou Hong Kong, comme on le faisait à une époque, ça n'a pas beaucoup de sens pour étudier les évolutions mondiales.
Pour revenir sur ces projections lointaines...
Votre question était pourquoi on va jusqu'en 2100.
Oui, parce qu'à 25 ans, l'évolution est bien prévue, mais après...
Plus ou moins, mais elle est beaucoup plus sûre, disons, à 25 ans. Mais la première grande projection des Nations Unies de 1963, c'est une projection à 25 ans. Mmh. Simplement, entre 1963 et maintenant, les ordinateurs sont arrivés massivement. Et comme c'est extrêmement simple de faire une projection, là, je vous ai un tout petit peu indiqué le mécanisme par la projection par composante, vous pouvez le faire avec Excel sur un petit micro-ordinateur. Il ne faut pas croire qu'il y a des mathématiques compliquées par derrière. Il y a des mathématiques compliquées pour expliquer certains phénomènes de population, mais pas pour faire des projections. Donc là-dedans, il y a eu une sorte d'emballement sur quelque chose qui ne signifie rien et qui nourrit les fantasmes. Et déjà 25 ans, c'est un peu loin, mais 25 ans, on a encore des projets économiques qui sont à 25 ans, des projets, mettons, si on reparle de centrales nucléaires, ou bien c'est le barrage des équipements lourds, on peut se dire, il faut avoir un horizon de 25 ans, mais avoir un horizon à 2100, je connais aucun projet économique, ni même politique, qui est à 2100.
Mais justement, vous anticipez ma question, je voulais vous demander à quoi ça sert, les projections au-delà de 50 ans, quand elles sont beaucoup moins précises,
Jacques Véron. Mais la question, c'est à quoi elles servent, même quand elles sont à moins de 50 ans.
Oui, mais à quoi servent ces projections?
Effectivement, par exemple, si on regarde la population scolaire après la guerre, la population scolaire, elle a été liée au baby-boom, enfin l'accroissement de la population scolaire, mais aussi liée au fait qu'il y a eu le développement de la scolarisation très intense. Donc, il n'y a pas un effet mécanique pur, si vous voulez, et c'est pareil quand on considère la population active. On peut faire des projections de population active, mais entre-temps, il y a eu le développement de l'activité féminine qui a modifié une des composantes importantes de la population active. Donc, c'est plus, ça permet un cadrage, mais ça ne, il faut le prendre vraiment comme des éléments de cadrage, à mon sens.
Oui, il faut aussi dire, peut-être, si je vois l'usage des projections, y compris l'usage que j'en ai, c'est souvent un usage a contrario, c'est-à-dire pour réfuter des chiffres incroyables qui sont donnés, comme celui d'ailleurs que vous avez cité tout récemment. Par exemple, j'ai fait un petit livre aux éditions Grasset, dont le titre est très clair, c'est « Il n'y a pas de grand remplacement ». Et pour le dire, il faut faire une projection démographique, vous voyez, donc elle ne sert pas à établir ce qui va arriver, mais à dire « voilà, ce qu'on raconte à ce sujet est absolument déraisonnable et n'a pratiquement aucune chance de se produire, sauf catastrophe inimaginable ».
Cécile Lestienne.
Oui, absolument. Les projections démographiques dans les années qui viennent, voire les 2-3 décennies qui viennent, sont quand même intéressantes, je pense, sur le plan politique, économique. Voilà, c'est des vrais choix de société. Après, c'est plus un exercice, mais qui sert souvent, effectivement, à démythifier, à faire tomber tous nos fantasmes sur la population et à comprendre aussi quand même quelle est la dynamique de la démographie, parce que quand on regarde toutes ces projections de l'ONU, donc on voit les chiffres qui augmentent, ok, mais effectivement quand on les regarde par classe d'âge, ça pose d'autres questions quand même. Par exemple, dans leurs projections, les plus de 65, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, les plus de 65 ans, c'est 10% de la population mondiale. Voilà. En 2050, c'est 16%, donc c'est ça, c'est une personne sur 6, voilà. Et en 2100, dans le scénario moyen, je ne dis pas évidemment pas que ça va arriver, ce ne sont toujours que des projections, mais on peut se faire l'exercice de penser de qu'est-ce que ça veut dire. Ça serait presque 24% de la population, ça veut dire quand même un quart de la population presque qui aurait plus de 65%. Qu'est-ce que ça veut dire comme société? Comment on pourrait c'est une question plus philosophique que démographique, non, mais c'est intéressant de se la poser.
Oui, mais c'est très varié selon les pays aussi, parce que au fond ces calculs-là sont quelquefois faits par exemple dans la question des retraites, mais vous allez pas, vous n'imaginez pas qu'il y aura un système mondial de retraite. Peut-être que ça serait très bien, mais je pense qu'il y a presque aucune chance.
C'est une question que justement il faudrait se poser peut-être.
Les Nations Unies ont un côté, je dirais, de œcuménique, c'est-à-dire il faut que ça marche bien en 2100. Donc c'est une des raisons de leur projection et aussi des critiques qu'on peut faire à leur projection. Juste pour terminer sur ce point de l'usage, Alfred Sauvy, qui avait fait cette projection en 1931, il avait fait deux esquisses. Et il arrivait à 29 millions d'habitants ou 39 millions en 1980, c'était à 50 ans. On a été 55 millions. Donc il avait une certaine amertume de cela. Et il avait forgé une devise qui va rejoindre ce qu'on disait auparavant, qui était « prévoir pour ne pas voir ».
Girls, take this advice and remember always in life. Into each heart, some tears must fall. Yeah.
The Marvelettes, Too Many Fish in the Sea, à 16h35 sur France Culture, car nous parlons du nombre d'humains sur cette planète et des méthodes des démographes, avec Jacques Véron, directeur de recherche émérite de l'INED, avec Hervé Lebras, directeur d'études à l'EHESS et directeur de recherche émérite à l'INED, et Cécile Lestienne, directrice de la rédaction de Pour la Science, qui consacre son numéro du mois de novembre aux prévisions démographiques. Alors, nous venons de parler des modèles mathématiques des évolutions démographiques d'une population, mais prévoir l'évolution de la mortalité et de la fécondité, Jacques Véron, c'est ça la vraie difficulté des démographes ?
Prévoir l'évolution de la mortalité. Dans les projections, on a supposé jusque-là qu'il y avait un accroissement assez régulier en prolongeant les évolutions récentes. Alors là, il y a un côté, justement, il y a eu des développements en mathématiques sur les formes d'évolution de la mortalité selon l'âge, et en particulier aux grands âges. Mais ça, l'évolution de l'espérance de vie, elle va avoir un effet à court terme qui va être relativement limité. Et j'en veux pour exemple, quand il y a eu en Ouganda, au moment où il y a eu le sida, la plus forte épidémie, l'espérance de vie a chuté considérablement et le taux de croissance de la population est passé de 3% à 2%, ce qui était énorme puisque ça faisait un point de croissance, mais ça n'a pas arrêté la croissance. Donc, à court terme, l'effet mortalité est moins fort que l'effet fécondité.
Hervé Lebras.
Oui, c'est le pont aux ânes, c'est la partie difficile, la prévision de quels seront les taux de mortalité futurs par âge et les taux de fécondité. Disons que c'est, bien sûr, il y a des incertitudes sur la mortalité, on le voit actuellement puisque l'espérance de vie est plutôt en train de, y compris avec le Covid, de plafonner. Elle diminue très légèrement aux États-Unis notamment, mais c'est surtout la fécondité qui est en jeu et c'est elle qui explique les différences actuelles entre les deux grands ensembles de projections parce que, et c'est une question qui est beaucoup agitée alors chez les démographes, à l'échelle mondiale, et particulièrement anglo-saxon, qu'ils appellent le piège de la fécondité, le fertility trap. C'est-à-dire, les Nations Unies pensent que les pays à très faible fécondité verront un baby-boom et que leur fécondité remontera au niveau, par exemple l'Italie qui est à 1,20, remonterait à peu près 1,60 en 2100. Mais les gens de Vienne, l'Institut Wittgenstein, pensent que une fois qu'on est arrivé à une très faible fécondité, il n'y a pas moyen d'en sortir. La société est orientée vers un très petit nombre d'enfants. C'est ce qui se passe actuellement en Chine, où bien qu'on ait levé la politique de l'enfant unique depuis maintenant, c'est à peu près 5 ans, la fécondité chinoise continue de baisser. Le dernier chiffre, il vaut ce qu'il vaut, donné par les Nations Unies, c'est 1,16 enfants par femme.
Cécile Lestienne.
Oui, c'est ce que j'ai fait. Comme vous savez, aujourd'hui, il y a même une politique de la famille à 3 enfants en Chine. Ce qui peut paraître un peu étonnant et qui n'a pas l'air du tout de fonctionner. Ce qui montre aussi les limites du pouvoir politique sur la fécondité des familles, qui sont des choix aussi très personnels, peut-être plus personnels qu'on ne le pense.
Alors, la démographie est une science complexe qui repose sur des projections avec de nombreux aléas, difficiles à anticiper à échelle globale. Et pour comprendre cette méthodologie, Céline Lausanne, vous êtes allée à l'INED, au campus Condorcet à Saint-Denis. Bonjour Céline.
Bonjour Natacha, oui, j'y suis allée pour rencontrer Gilles Pison, qui est anthropologue et démographe, professeur au MNHN et chercheur associé à l'INED. Alors pour nous montrer à quel point la projection démographique est un exercice complexe, nous avons sorti un vieil atlas de la population humaine pour examiner la toute première projection établie par l'ONU pour 2100. C'était en 1981 et nous l'avons comparé à la dernière publiée cette année en juillet 2022. Et le résultat est tout à fait intrigant, le total d'humains sur Terre sur 41 ans est quasi équivalent, autour de 10 milliards et demi, sauf que derrière cette stabilité apparente se nichent des dynamiques et des variabilités par continent ou par pays qu'il aurait été très difficile d'anticiper en raison des aléas et notamment du taux de fécondité.
L'Institut national d'études démographiques donc, a déménagé pour venir dans des nouveaux locaux au sein du campus Condorcet. Donc, les locaux sont flambant neufs et ça occupe une ancienne friche industrielle donc à la limite entre Aubervilliers et Saint-Denis.
C'est intéressant que l'INED soit implantée ici, dans ce département très dynamique au niveau démographique, il y a beaucoup de jeunes.
C'est... Ah oui, si vous vous baladez dans les bureaux, dans les... il y a beaucoup de jeunes chercheurs, de doctorants, de post-doctorants, et un peu de toutes les générations.
Tenez, voilà. Alors dans votre bibliothèque, qu'est-ce qu'on trouve?
Ben là, c'est Atlas de la population mondiale aux éditions Autrement. Hein. Et je trouve que c'est intéressant de comparer les projections qui sont publiées aujourd'hui à celles publiées autrefois. Alors là, j'ai fait cet exercice en comparant celles qui ont été publiées il y a 2 mois, en juillet, par les Nations Unies, avec celles qu'elles avaient publiées il y a 41 ans, en 1981. C'était la première fois que les Nations Unies projetaient la population mondiale jusqu'en 2100. Et alors, le résultat, il est intéressant, c'est que au total, il y a 41 ans, les Nations Unies annonçaient 10,5 milliards d'humains en 2100.
Alors là, 10,5. On peut voir justement des projections des
et
cartes.
Là. Oui, aujourd'hui, elles ont annoncé dans leur scénario moyen 10,4 milliards d'humains en 2100. Donc c'est pratiquement la même chose. L'impression que rien n'a bougé dans les annonces. Hein. En fait, tout a bougé parce que dans le détail, si le total est le même, pour chaque continent, c'est très différent. Et par exemple, si on prend l'Asie, elle était annoncée en 2100 avec 5,9 milliards d'habitants dans les projections publiées il y a 41 ans, en 1981.
Et aujourd'hui, du coup ?
4,7. Donc, à l'horizon 2100, dans les projections publiées il y a 2 mois. Donc, ça fait 20% de moins. Mais pour l'Amérique latine, elle était donnée avec 1,187 milliard en 2100, dans les projections publiées il y a 41 ans. Et dans celles qui ont été publiées il y a 2 mois, 647 millions. Moitié moins pour l'Amérique latine. Pareil, donc, l'Afrique, qui était annoncé avec 2,2 milliards d'habitants en 2100, dans les projections publiées il y a 41 ans, eh bien elle a annoncé avec le double, avec les projections publiées il y a 2 mois. Donc le total est le même, parce qu'il y a les baisses qui sont compensées par les hausses, mais oui, c'est pas la même. Et pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'on a eu 3 surprises depuis 40 ans. On a constaté d'abord que dans les pays développés où la fécondité était déjà en dessous de 2 enfants par femme, eh bien la fécondité était restée basse. Or, il y a 40 ans, l'hypothèse était que tous les pays, y compris ceux qui étaient avec une fécondité basse, allaient voir leur fécondité remonter pour arriver à 2 enfants par femme, donc ce qui permet le remplacement des générations à terme. Aujourd'hui, on a abandonné cette idée que la basse fécondité peut perdurer. Une deuxième surprise, c'est en Asie et en Amérique latine, il y a 40 ans, les femmes avaient encore 5-6 enfants chacune. On pensait bien qu'elles allaient avoir moins d'enfants, comme en Europe et en Amérique du Nord, mais on pensait que ça prendrait du temps. Et la surprise, c'est que les enquêtes ont montré que la fécondité avait commencé à baisser beaucoup plus vite qu'on imaginait. Du coup, les démographes ont révisé à la baisse leurs projections pour ces continents. Troisième surprise, en Afrique, on savait bien que l'Afrique allait suivre le mouvement avec retard par rapport aux autres continents, mais que probablement l'Afrique allait connaître les mêmes évolutions, donc une baisse de mortalité et une baisse de la fécondité. Alors c'est bien ce qui s'est passé, mais là, à l'inverse de l'Asie et de l'Amérique latine, les évolutions ont été plus lentes qu'on l'imaginait. Résultat, une révision à la hausse cette fois-ci, des projections pour l'Afrique. Donc, vous voyez que, de façon surprenante, on serait le même nombre que ce qui était annoncé il y a 40 ans, en 2100, hein, mais d'une façon totalement différente, avec une répartition par continent d'humanité qui n'est pas du tout la même que l'image qu'on avait il y a 40 ans.
Vous parlez beaucoup de surprises, de contingences, finalement, dans ces modèles qui remanient un peu les projections. Quelle est votre votre intuition, mais sur les surprises auxquelles on pourrait s'attendre. Enfin, c'est un peu une question tordue, mais...
Alors, ça oblige à de la modestie, d'abord, hein, parce qu'il faut faire attention à ce que vous annoncez dans vos calcul, ben, il faut savoir que dans 40 ans, par exemple, quand on aura observé ce qui s'est passé, forcément, ça sera différent de ce qui était annoncé, des hypothèses que vous avez faites ou que les autres ont faites. Hein. C'est pour ça que les projections ne font que mettre en scène la situation d'aujourd'hui et puis l'image qu'on se fait du futur, mais qui correspond aux tendances d'aujourd'hui. Et donc, on n'est pas à l'abri de surprises. On l'a vu dans le passé et probablement que dans 40 ans, on aura une image encore différente de ce qui nous est donné par les projections publiées aujourd'hui.
Merci Céline Lausanne pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Cécile Lestienne.
Ah ben évidemment, moi je retrouve le discours de Gilles Pison, justement, qui a écrit l'article dont je parlais tout à l'heure et avec lequel nous avons justement préparé tous les graphiques, dont celui que je parlais tout à l'heure, justement sur cette comparaison hein, des projections de l'ONU et que donc vous pouvez trouver sur le site de Pour la Science là aujourd'hui. Mais oui, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue. Vous avez été démographe de le dire, effectivement, que ce sont des projections, ce sont des outils intéressants à manipuler, mais l'avenir n'est pas écrit.
Et Jacques Véron, hein, on voit bien que les projections sont plutôt bonnes au niveau population mondiale, mais pays par pays.
Oui, justement, je voudrais prendre l'exemple du Japon, qui est quand même très intéressant pour les démographes, et revenir sur ce qu'a évoqué Hervé Lebras de la basse fécondité persistante, enfin, de ce scénario. Parce que au Japon, quand il y a une baisse de la fécondité, quand le chiffre, on ne sait pas pourquoi exactement ce chiffre, mais quand on a atteint une fécondité de 1,57, ça a été un choc au Japon. Toute la société s'est dit « Ah, c'est pas possible », etc. Le gouvernement s'est ému de la question, mais finalement, la fécondité a poursuivi sa baisse derrière. Et ça renvoie à la question du vieillissement de la population. Vous disiez quels seront les scénarios futurs, mais il suffit de regarder ce qui se passe au Japon aujourd'hui. Il y a une situation de dépopulation et il y a une situation de vieillissement des campagnes considérable. Et on transforme des écoles en maisons de retraite. Donc il y a des aspects concrets, très concrets. Et donc ce scénario de... disons, d'égalisation vers un niveau moyen, effectivement, moi je pense qu'il n'y a pas des inversions, et d'ailleurs on le voit, quand Singapour, à une époque, a mis en place une politique pour limiter la fécondité, puis après a voulu favoriser la fécondité des femmes éduquées, en se disant, derrière, il y avait l'idée qu'elles étaient plus intelligentes que les autres, et que donc on allait améliorer ce qu'on appelait la qualité de la population, absolument, c'est le génisme. Mais de toute façon, ça n'a pas marché. Parce que les femmes éduquées n'avaient pas envie d'avoir beaucoup d'enfants. Donc les politiques, déjà à la limitation des naissances, comme ça a été en Inde, ça ne marche pas très facilement, à part l'exemple chinois de politique très autoritaire. Et quand on veut inverser et dire maintenant, ayez plus d'enfants, ben non, les gens se sont habitués, puis il y a eu un développement économique qui fait qu'il y a des repères différents.
Hervé Lebras, on a l'impression que, même en entendant d'ailleurs Gilles Pison, bon, que c'est des erreurs techniques des démographes, mais le plus souvent, c'est des erreurs idéologiques. Je vais donner un exemple, c'est le cas de l'Iran. Dans la projection de 1994, les Nations Unies prévoyaient qu'il y aurait en 2050 160 millions d'Iraniens. Et maintenant, elles prévoient qu'il y en aura seulement, si on peut dire, 85 millions. C'est presque une division par deux sur une année qui n'est pas si lointaine. Ce n'est pas 2100, c'est 2050. Alors, que s'est-il passé?
Mais comment expliquer un tel décalage?
Eh ben, il est assez largement idéologique. Première idéologie, c'est on estimait à l'époque que la religion musulmane, on ne pouvait pas faire de contraception, ni la fécondité ne baisserait pas dans les pays musulmans. C'est vrai qu'ils avaient tous une haute fécondité. Or, l'Iran, qui en 1985 était à 6 enfants et demi par femme, est passé en 2005 à 1,8 enfants par femme. Il y avait un second problème, c'était que l'Iran c'était la Khomeini, et ça faisait peur. Et donc, quelque part, je soupçonne les Nations Unies aussi, malgré elles, d'avoir amplifié cette peur en montrant que, un monde, un Proche-Orient avec 160 millions d'Iraniens, il y avait de quoi avoir assez peur. Je dirais que d'une certaine manière, dans un autre sens, actuellement, les projections ne tiennent pas compte d'un petit fait dont je vais dire un mot, j'avais fait un article là-dessus dans la revue Politique étrangère. Si vous prenez les plus hautes fécondités en Afrique, ça démarre à 7 enfants par femme. Au Niger, vous avez ensuite Somalie, République démocratique du Congo, Mali, Tchad, Burundi. Ce sont un ensemble de pays où il y a des troubles graves. Et dans ces troubles graves, les mouvements qui créent ces troubles, notamment Boko Haram dans le nord du Nigeria et qui affecte le Niger, luttent pour empêcher les femmes de pratiquer la contraception. Ils luttent en détruisant les écoles. On sait que c'est l'éducation qui sert à faire baisser la fécondité. Boko Haram, ça veut dire détruire les livres. Hein. Et puis, vous l'avez vu, ils raptent les lycéennes. Donc, les mêmes problèmes se posent à d'autres niveaux, notamment au Congo. Si vous prenez l'Asie, quels sont les pays où la fécondité est la plus élevée? Je vais vous les donner dans l'ordre. Afghanistan, Yémen, Irak, Syrie, Palestine. C'est un ensemble de pays où il y a des problèmes très graves. Les talibans ont la même politique que Boko Haram en Afghanistan. Le Pakistan, c'est guère mieux. Donc, le risque qu'on a actuellement, c'est que dans ces pays-là, la fécondité, à cause des troubles politiques, ne baisse pas. Parce que en cas de trouble politique, vous n'avez plus de distribution de contraceptifs. Vous avez les femmes sont à la merci des militaires ou des mercenaires, encore le plus souvent. Ça encourage aussi le patriarcat. Donc, j'irais, si on doit faire une projection, vous voyez, un peu politique, je hausserais un petit peu dans certains pays d'Afrique et d'Asie par rapport à ce côté plus œcuménique qu'ont les Nations Unies dans leur projection. On sort du cadre qui est purement démographique et il faut entrer dans le cadre politique. C'est d'ailleurs, au fond, Jacques Véron, vous l'avez signalé au tout début de votre intervention. Par derrière, il y a de la politique. Je pourrais donner un autre tout petit exemple, si vous me donnez une seconde. C'est que si vous regardez la population, la projection haute et basse des Nations Unies pour 2100, vous voyez que, grosso modo, les États-Unis sont entre 300 millions et 550 millions, et la Chine entre 450 millions et 1,1 milliard. Mais la projection haute des Nations Unies est supérieure à la projection basse de la Chine. Donc, ça évite de montrer une Chine absolument dominatrice en 2100. Et ça, c'est pas un hasard complet. J'ai regardé, ça a été à chaque fois, dans toutes les projections des Nations Unies, la même chose.
Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Je rappelle que le numéro pour la science sort en kiosque mercredi prochain sur la démographie. Merci, c'est l'heure de retrouver Étienne Klein pour sa chronique « Le pourquoi du comment ».
D'où vient que le jus d'orange grimpe dans la paille? On répète souvent que la nature a horreur du vide. Par exemple, lorsqu'un poste devenu vacant est aussitôt convoité. Cette prétendue détestation de la nature pour le vide fut longtemps considérée comme une véritable force capable d'agir sur les objets. Prenez par exemple une paille et essayez d'aspirer l'air qu'elle contient. Ce sera peine perdue, car la nature ayant horreur du vide, elle exigera que de l'air pénètre aussitôt dans la paille par l'autre extrémité pour empêcher que du vide s'y manifeste. Si vous placez maintenant un doigt sur l'une des extrémités de la paille et aspirez l'air par l'autre, vous ne créerez pas non plus de vide. Car pour empêcher son apparition, la nature demandera à la paille d'avoir la gentillesse de s'écraser sur elle-même. Si enfin vous trempez la paille dans un verre de jus d'orange et aspirez de nouveau, vous finirez par boire le jus d'orange sans qu'il y ait la moindre création de vide. Obéissant là encore aux injonctions de la nature, le jus d'orange montera docilement dans la paille, défiant en apparence la gravité, pour venir combler par avance tout espace vide qui pourrait surgir. N'est-il pas naturel, en effet, de penser que c'est le sentiment d'horreur que la nature ressent pour le vide qui tire le jus d'orange vers le haut, qu'il agit en somme comme un antidépresseur autoritaire qui donne l'ordre au jus d'orange de grimper dans la paille afin d'y prévenir l'apparition d'une quelconque dépression. En réalité, toutes ces explications que je viens de vous donner sont fausses. Au milieu du XVIIe siècle, il s'est en effet produit une sacrée révolution à propos du vide grâce à une escouade de cadors tels que Galilée, Torricelli ou Blaise Pascal. Ils finirent par comprendre que le prétendu sentiment d'horreur que la nature éprouverait pour le vide découlait d'une mauvaise interprétation des phénomènes. L'atmosphère terrestre exerce un poids équivalent à celui d'une masse de 10 tonnes sur chaque mètre carré de tout ce qui se trouve au sol, forçant l'air à s'infiltrer par tous les orifices possibles et empêchant par là même l'apparition facile d'un quelconque vide. Ce n'est donc pas que la nature a horreur du vide, c'est simplement que la pression atmosphérique est si forte qu'elle rend sa réalisation difficile. Reprenons l'exemple de la paille dans un verre de jus d'orange. Si le jus d'orange grimpe dans la paille quand nous aspirons, ce n'est pas avec l'intention d'empêcher l'apparition d'un vide. C'est la pression de l'air sur la surface du jus d'orange présent dans le verre qui pousse le jus d'orange présent dans la paille lorsque la pression de l'air y est diminuée par notre aspiration. C'est donc une force s'exerçant du haut vers le bas qui est responsable de la montée du jus d'orange du bas vers le haut. Est-ce à dire qu'aspirer dans une paille, c'est y créer les conditions qui règnent en haute montagne? La réponse est oui, et c'est Blaise Pascal qui en donna la première démonstration, aidé par son beau-frère Florin Perrier, qui escalada le Puy-de-Dôme le 19 septembre 1648. Blaise Pascal en tira la conclusion suivante. « Du principe que la nature a pour le vide une horreur invincible, j'ai passé à ce second qu'elle en a horreur, mais pas de façon invincible. Et de là, je suis arrivé à la croyance du troisième, que la nature n'a aucune horreur pour le vide. » Fin de citation. Au passage, n'est-il pas étonnant que ce soit le même esprit, Blaise Pascal, qui ait d'une part compris que l'homme se divertit par horreur du vide, d'autre part qui ait démontré que la nature, elle, n'a nullement le vide en horreur. La pression atmosphérique, qui empêche le vide de se manifester facilement sur Terre, serait-elle l'équivalent physique du divertissement grâce auquel nous parvenons à tenir le sentiment de vide à l'écart de nos vies? Quoi qu'il en soit, les conséquences des découvertes de Blaise Pascal furent renversantes, y compris dans des domaines a priori fort éloignés des préoccupations des physiciens. Par exemple, il put expliquer que c'est la pesanteur de l'air, et non l'horreur du vide qui, dit-il, est la cause de l'attraction du lait que les enfants têtent de leur nourrice. Il poursuit, « Quand un enfant a la bouche à l'entour du bout de la mamelle de sa nourrice, quand il suce, il attire le lait. Cela vient de ce que la mamelle est pressée de tous les côtés par le poids de l'air qui l'environne, excepté en la partie qui est dans la bouche de l'enfant. » Fin de citation. Ainsi donc, contrairement à ce qu'on dit, un nourrisson qui tète un sein n'aspire pas le lait à proprement parler. Sa bouche, placée en légère dépression grâce à la suction, se contente de recueillir la précieuse substance qui y est propulsée grâce à la présence pressante, aidée par quelques muscles, de l'atmosphère terrestre aux basses altitudes. La pesanteur de l'air est donc la mère invisible mais vitale de l'allaitement. Voilà pourquoi il ne serait pas si facile de téter un sein au sommet de l'Everest. Pas grave, on n'y emporte pas de nourrisson.
Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. L'équipe de la science CQFD, c'est Antoine Beauchamp, Ève Étienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfranc, Garance Préma Agnolo, Natacha Demoule, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon. Vous pouvez nous podcaster sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France et vous abonner, pourquoi pas, au compte Twitter @sciencesqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour et souvenez-vous, rien n'est établi.
France Culture et Arte présentent la deuxième édition de Et maintenant, le Festival international des idées de demain. Avenir, environnement, incertitude, engagement, émotion. Et maintenant, on se rencontre et on en discute. Direct, débat et ateliers participatifs, docu-conf et plus encore. Les 21 et 22 octobre, à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris et sur un site dédié. Infos et inscriptions, et maintenant-lefestival.fr.